L'Opus Festival de Colmar depuis l'hôtel Le Maréchal, 29e édition du 5 au 14 juillet. Hommage au chef d'orchestre Michel Plasson. Et bien c'est sur Accent 4, c'est maintenant générique.
L'Opus Festival de Colmar, une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival de musique de Colmar et avec le soutien du CIC Est et d'Arpège Armand Meyer.
Bonjour à vous tous et merci de recevoir chez vous ce nouveau numéro de l'Opus Festival de Colmar. Aujourd'hui, samedi 8 juillet, j'ai le plaisir d'accueillir le Quatuor Harrod qui s'est produit à 12h30 au Coifus et Vincent Monteil, directeur artistique de l'Opéra Studio et conseiller artistique de l'Opéra National du Rhin. Deux concerts en ce début de soirée, dans quelques minutes à 18h15 à la Chapelle Saint-Pierre, Vladimir Spivakov, Timur Piverdiev, Petr Gladysh et Zoya Abolitz joueront Ravel et César Franck, puis à 21h à l'église Saint-Mathieu, dernier concert de Michel Plasson à la tête de l'Orchestre National Philharmonique de Russie et une seule œuvre au programme, mais quelle œuvre, la damnation de Faust d'Hector Berlioz avec Sophie Coche, Marc Lao, Nicolas Courjal, Julien Véronèse et la participation du grand chœur, maître de chant choral de Moscou.
Thank you.
De la mort d'Orphée de Berlioz, nous écoutions la Bacchanale au dieu puissant, fils de Latone, au Bacchus Evoé. Rolando Villazón était accompagné par l'orchestre du Capitole de Toulouse, placé sous la direction de Michel Plasson. Mes premiers invités sont au nombre de quatre, puisqu'il s'agit du quatuor Harrod, Jordan Victoria, Alexandre Vu, violon, Corentin Appareilli, alto, et Sami Rachid, violoncelle. Il s'agit donc des quatre membres du quatuor Harrod, je l'ai dit, qui s'est produit à 12h30 au Cueilfus. Bonjour à vous quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Bien évidemment, on va parler un petit peu de votre carrière, de vos débuts discographiques, ça sera en septembre. Mais pour des jeunes musiciens comme vous, que signifie, que symbolise le nom de Michel Plasson? Alors pour vous, Corentin, ça dit quelque chose?
Oui, mon père est altiste à l'orchestre du Capitole de Toulouse, donc il a bien connu Michel Plasson, qui l'a dirigé pendant quelques années. Donc c'est un nom, malheureusement, moi j'ai peu de souvenirs parce que j'étais vraiment petit quand j'allais voir les concerts, mais c'est un nom qui me parle et son visage, je sais pas d'où je le reconnais, mais voilà, il a fait partie de mon entourage lointain.
Et vous, Jordan? Plasson, Michel Plasson, sa carrière discographique, son leg, le leg important qu'il laisse à la musique française?
C'est une question que je ne peux pas répondre, je crois. Donc, Samy?
Michel Plasson a tellement œuvré pour la musique française pendant toute sa vie. Je pense que c'est un de nos plus grands représentants à travers le monde. Il a dirigé la musique française partout, en la plaçant au plus haut niveau possible. Donc je pense que c'est peut-être notre plus grand représentant de notre musique à l'international et même en France, parce qu'il a fait redécouvrir énormément de choses. Je pense aux opéras de Gounod, aux opéras d'Offenbach qu'il a enregistrés très tôt avec des grands chanteurs comme Michel Sénéchal. Donc je pense que c'est quelqu'un à qui on doit beaucoup et c'est vraiment formidable qu'il dirige encore partout. Hein. Je sais qu'il dirige beaucoup en Asie en ce moment. Donc,
il est directeur musical d'un orchestre en Chine.
Voilà, donc c'est vraiment formidable que des grands musiciens comme ça exportent notre musique au plus haut niveau.
Alors Vincent Monteil ne va pas contredire vos propos, Samir, puisque Vincent a été l'assistant de Michel Plasson au Capitole de Toulouse de 1991 à 1996.
Ça fait donc 25 ans, effectivement, que j'ai rencontré Michel Plasson, qui a été vraiment mon maître. Je sortais juste des études, j'avais fait conservatoire, Guildhall à Londres, et puis mon premier poste, c'est assistant au Capitole, à l'Opéra d'ailleurs, et je me retrouve ici, et à l'époque, Michel Plasson n'avait plus d'assistant à l'orchestre, et quand on a travaillé ensemble la première fois, c'était sur Don Quichotte de Massenet, mis en scène par Pierre Barat. Vous voyez comme le monde est petit, puisque Pierre Barat est bien connu en Alsace. Et donc, immédiatement, il m'a demandé de venir aussi travailler pour lui à l'orchestre, un petit peu une lourde charge, mais j'ai beaucoup appris, c'était vraiment un grand... Oui, c'était mon maître, je peux le dire comme ça, tout à fait.
Et donc beaucoup de plaisir à le retrouver.
Tout à fait, je l'ai retrouvé fugitivement il y a 9 ans ou 10 ans lorsqu'il est venu diriger Werther à l'Opéra du Rhin. Et puis pour cette édition du festival, voilà, je suis allé l'accueillir dès son arrivée ici. Il m'a dit immédiatement, viens demain, j'ai besoin de tes oreilles pour mes répétitions. Ok, donc j'ai remis du service 25 ans après, c'était très agréable, ça l'est.
Et juste cas. Après l'émission, vous repartez tout de suite
voilà,
à Saint-Mathieu
pour faire la répétition pour la Nation fausse, absolument.
Alors mes amis du Quatuor Harrod, vous êtes tous élèves du Conservatoire de Paris.
Oui.
Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez eu envie de vous réunir tous les quatre et de fonder ce quatuor?
À vrai dire, c'est un peu le hasard, parce que, comme on le dit souvent, on ne se connaissait pas du tout en fait, avant de travailler ensemble. Donc malheureusement, ce n'est pas un quatuor qui naît de l'amitié de quatre personnes.
Malheureusement.
Heureusement maintenant. Mais voilà, c'est des amis en commun en fait, qui nous ont mis en relation. Le projet d'origine venait de Corentin et Jordan qui faisaient du quatuor pour les attestations au conservatoire, donc pour les examens internes. Et après, avec Alex, on est arrivé et on a eu la chance de rencontrer François Salk, qui nous a pris sous son aile.
Violoncelliste.
Exactement. Et ancien violoncelliste du Quatuor Isaïe, qui nous a pris sous son aile, qui nous a programmé dans des festivals dont il était directeur artistique. Et de fil en aiguille, ça nous a de plus en plus plu. On a commencé à passer des concours et après, voilà, c'est un peu parti comme ça, sans qu'on en ait vraiment à la base le désir de faire, entre guillemets, carrière dans le quatuor. Mais c'est quelque chose qu'on a découvert au fur et à mesure et qui nous a bouleversé et qui nous, voilà, on est rentré dans le tourbillon avec grand plaisir.
Alors, vous avez fondé ce quatuor en 2013? Et l'année passée, vous avez remporté un concours extrêmement important, le concours ARD de Munich. Voici la carrière lancée. Qui veut répondre ?
C'est sûr que l'ARD, c'est une énorme étape pour un jeune quatuor, parce que c'était, nous, dans notre imaginaire, quand on a commencé le quatuor, c'était vraiment le plus gros, le mont ultime en termes de concours. Donc on avait ça dans un coin de notre tête, mais on n'osait pas trop se dire qu'un jour, peut-être, on y serait, quoi. Et puis, en fait, ça s'est fait pareil, assez... dans le flot des choses, et puis on s'est dit que c'était le moment de passer le concours, et puis on l'a passé en septembre dernier, et ça fera un an du coup dans un mois.
Et vous avez eu les conseils du Quatuor Eben, qui a aussi remporté son concours. Oui. Vous avez aussi reçu les conseils du Quatuor Artemis et du Quatuor Diotima. Alors, Quatuor Diotima est beaucoup plus spécialisé en musique contemporaine. C'est une musique que vous pratiquez assez régulièrement, peut-être Alexandre ?
Bien sûr, nous laissons toujours un peu de place pour la musique moderne, parce que pour nous, c'est très important de toujours jouer aussi la musique de notre temps. Donc on a aussi commandé un nouveau quatuor par un ami compositeur qui sera créé en septembre par le compositeur Benjamin Attahir, avec qui on a fait une résidence il y a 2-3 jours, je crois, à la maison de Messiaen, vers Grenoble. Et là, on a passé 3 jours, on a découvert l'œuvre avec lui, qui vient de finir il y a 2 semaines. Et ça s'est super bien passé, et on va créer à partir, et on va le jouer à partir toute la saison prochaine, cette œuvre.
Très bien. Et premier disque pour Erato, ce sera en septembre, un disque consacré à Mendelssohn. Si...
Oui, tout à fait.
J'ai de bonnes infos. Donc.
Exactement, vous êtes bien renseigné. Oui, donc ce sera un disque Mendelssohn. L'idée nous est venue en fait parce que, comme on vous disait, on a passé plusieurs concours durant ces 4 années. Et l'opus 13 de Mendelssohn est un quatuor qu'on a joué dans toutes les compétitions qu'on a fait. Donc c'est une œuvre qui nous a vraiment accompagné dans ce début de vie de quatuor qu'on a. Et ça a été vraiment l'idée, la première idée qui nous est venue à tous les quatre. On s'est dit, pour un premier disque, on veut l'opus 13 de Mendelssohn. Et après, on a beaucoup hésité. Est-ce que on le mélange avec d'autres compositeurs, ou est-ce qu'on fait un disque intégralement Mendelssohn? Et finalement, on s'est dit, autant raconter une même histoire, et du coup on a choisi plusieurs œuvres qu'il a écrites tout au long de sa vie. Donc il y aura l'opus 44 numéro 2 en mineur, qui est un quatuor absolument exceptionnel, mais qui malheureusement n'est pas assez joué à notre goût, parce qu'à part l'opus 13 et l'opus 80, les quatuors de Mendelssohn sont malheureusement pas assez joués, parce que tous les quatuors de Mendelssohn sont absolument extraordinaires. Et les 4 pièces opus 81, qui sont en fait 4 pièces qu'il a écrites tout au long de sa vie, sans forcément avoir l'idée de les regrouper sous le même opus, mais à sa mort, ses éditeurs les ont réunis sous l'opus 81, qui est du coup de fait un opus posthume. Et donc on s'est dit, faut enregistrer cette musique, parce que c'est ces 4 pièces absolument extraordinaires. Il y a un thème et variation, le capriccio, un scherzo, une fugue. Et voilà, c'est 4 chefs-d'œuvre qu'on est sûr que les gens découvriront ça avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est de la musique exceptionnelle, vraiment.
On lui reproche toujours à Mendelssohn une facilité d'écriture, et on lui en veut toujours, même au 21e siècle.
Oui, facilité d'écriture, mais pas facilité d'interprétation, parce que c'est quand même très difficile.
Vincent, je me suis posé une question lorsque j'ai invité le quatuor Harrod. J'ai dit, mais qu'est-ce que signifie le nom Harrod ? Est-ce que vous le savez ?
C'est une colle.
Eh ben, moi aussi, jusqu'à tout à l'heure, je ne le savais pas. Alors, que signifie... On ne vous a pas encore entendu. Allez, à vous.
Alors, le nom Harrod...
Julien.
En fait, ça vient de la...
Pardon.
Le nom Harrod, ça vient de la littérature anglaise de Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux. Et ça, c'est un cheval dans... Enfin, c'est le nom d'un cheval dans ce roman. Et en fait, on aimait bien le symbole du cheval, du compagnon de route, de l'aventure. Et c'est comme ça qu'on a choisi le nom.
Voilà, Vincent, on a appris quelque chose.
Bah, moi aussi, je regarderai différemment s'il y a des années.
Moi, j'ai attendu jusqu'à tout à l'heure pour le savoir. On va écouter un quatuor, le quatuor Artemis. On va l'écouter dans le premier mouvement du quatuor Serioso, l'opus 95 de Ludwig van.
Thank you.
L'Allegro con brio du Quatuor en Fa mineur, opus 95 de Beethoven, par le Quatuor Artemis. On va retrouver dans quelques secondes nos amis du Quatuor Arod. Vincent, Michel Plasson, comment vous pourriez définir le son Plasson, lui qui est aussi attaché à une certaine idée du son français?
À la recherche du son perdu, n'est-ce pas? C'est un petit peu... Si, je reviendrai en arrière sur 30 ans en arrière, peut-être. Nous qui sommes plus anciens, n'est-ce pas, on connaît ça. Je pense qu'il y avait vraiment une... Les orchestres, suivant les pays, avaient vraiment un son différent. Il y avait vraiment un son russe ou allemand, avec des cordes d'une densité assez, assez forte, assez prenante. Les Américains étaient réputés pour les cuivres très brillants, très, très rutilants. D'ailleurs, même la facture instrumentale aussi suivait. Et puis la musique française était réputée pour son école de bois, elle l'est toujours d'ailleurs, hein. Les plus grands solistes à Berlin ou à Metropolitan ou sont français souvent des flûtistes ou oboïstes. Et donc on a cette école de bois qui sont assez fantastiques. Et puis une façon de rendre les cordes transparentes, je pense que c'est un petit peu ça qui peut caractériser aussi l'écriture de la musique française et donc son exécution, ou inversement plutôt, on peut dire que les orchestres donnent les idées aux compositeurs du son qu'ils veulent obtenir dans le pays où ils sont nés, à une époque où effectivement il y avait peut-être moins de voyages qu'aujourd'hui. Et puis il y a eu beaucoup de transferts de musiciens, l'ouverture avec les pays de l'Est, etc., qui fait que le son est devenu un petit peu internationalisé. On trouve le même son d'orchestre à Chicago, à Paris ou à Berlin. Et c'est peut-être ça que c'est sûrement ça, c'est ça d'ailleurs, pour moi aussi, que regrette Michel Plasson, d'avoir un son uniforme partout, pour jouer, quelle que soit la musique, d'avoir le même son. Et arriver à retrouver, avec un orchestre travaillé, pour obtenir cette transparence, cette clarté des bois, c'est vraiment un travail intéressant à faire, pour exécuter. On parle beaucoup aujourd'hui de retrouver des interprétations authentiques d'époque sur instruments, etc. Ça fait partie aussi, je crois, ces qualités de son de la recherche qu'on doit faire pour obtenir un vrai son d'orchestre adapté à la musique que l'on exécute.
Est-ce que vous pensez donc que la musique française, la manière de l'interpréter, est en danger ?
En danger, c'est un grand... Si, on peut quand même. Hein. Et c'est pas nouveau. Ça fait quand même, justement, peut-être 10, 20 ans, 30 ans que Michel Plasson part toujours, trouve qu'on ne joue pas assez la musique française, on ne l'aime pas assez. Donc comme on ne l'aime pas, qu'on ne la joue pas, peut-être la façon de l'interpréter se perd aussi et s'internationalise de la même façon. Et on joue Tchaïkovski comme on joue Berlioz ou Beethoven. C'est un petit peu dommage.
Vous avez assisté aux séances de travail de Michel Plasson. Comment se passe une séance de répétition avec lui ? Il a d'ailleurs dit à ce micro mercredi, quand il évoquait Pierre Monteux, sous la direction duquel il a joué, Pierre Monteux était extrêmement précis. Moi, je suis moins précis.
Ce n'est pas tout à fait faux. Mais ce qu'il caractérise surtout, je crois que c'est un grand charisme. Moi, mes plus belles émotions musicales sont vraiment dans l'instant. Je me souviens du dialogue des Carmélites à la Lograin à Toulouse. Cette façon qu'il a juste de communiquer par son geste, par son être, tout simplement, sur le podium, la façon dont il est, fait qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est peut-être ce qui caractérise les grands, justement, c'est ça. C'est qu'au-delà d'être un musicien très raffiné, très connaisseur, un grand chef d'orchestre, il a un charisme qui ne s'explique pas, qui ne peut pas se copier. Donc ça, c'est vraiment unique, assez unique à lui. Alors la façon de travailler, elle est dans l'écoute. Très souvent, et je me souviens particulièrement, tiens, à l'opéra, quand il fait une répétition, la première répétition musicale d'un opéra, avec les chanteurs autour du piano, il dirige à peine, il dit, oh, allez, vas-y, au piano, au pianiste et au chanteur, faites. Et puis tout d'un coup, sa main s'agite et elle sculpte la musique, si j'ose dire, et il reçoit ce que les interprètes proposent et il le transforme à son tour, et avec cette patte, comme un sculpteur ferait d'une glaise. Et c'est un petit peu comme ça. Et avec l'orchestre, c'est la même chose. On commence à jouer, puis non, il arrête, il change un phrasé, surtout les phrasés aux cordes. Ça, c'est son grand truc, les coups d'archet, trouver des vraies phrases musicales pour donner le sens que le compositeur a voulu ou ce que lui a l'impression qu'il faut faire. Et donc, c'est ça. Puis après, on continue, on roule petit à petit. Effectivement, il y a une espèce d'alchimie qui se crée. Et, voilà, souvent aussi, les histoires de balance, mettre en valeur les bois, à l'opéra, mettre en valeur les voix. Je me souviens quand j'étais assistant, effectivement, au fond de la salle, d'arriver, de venir dire l'orchestre est trop fort. Ok, il y a beaucoup de chefs qui disent non, c'est pas grave, les chanteurs n'ont qu'à avoir la voix. Lui disait non, on va baisser l'orchestre. Parce que plus on va monter, plus le chanteur va chanter fort, et moins bien il va chanter. Et de toute façon, si on n'arrivera jamais, on ne peut jamais équilibrer une voix. Si l'orchestre joue fortissimo, on ne peut pas lutter avec une voix. Donc, effectivement, trouver toujours une balance qui fait qu'arriver avec l'archet, justement, à rien, ce rien qui fait que. Cette transparence dont je parlais tout à l'heure, c'est ça qui va faire qu'on va peut-être obtenir la quintessence de la musique, quoi, et non pas jouer comme des bourrins, si je puis m'exprimer ainsi.
Ce sont des éléments qui vous parlent.
Oui, c'est sûr. C'est très intéressant ce qu'il dit aussi sur la recherche du son pour chaque compositeur. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire en répétition, de trouver une patte et une identité pour chaque compositeur, justement, et pas avoir un son uniforme. Et dans la recherche des balances, des couleurs, j'étais en train de me dire que c'est pas si différent de nos répétitions à nous, même si on est 150 personnes de moins, mais je sais pas si tu veux.
Oui, c'est vrai que, enfin, je rebondis par rapport à ce que vous disiez précédemment sur la musique française. C'est vrai que dans le répertoire pour quatuor, enfin, on se retrouve quand même avec trois quatuors contre ne serait-ce que 16 Beethoven. Donc c'est vrai que effectivement la musique française n'est pas assez représentée, et c'est vrai que l'écriture de quatuor pour les compositeurs français et n'a rien à voir avec ce qu'on retrouve chez Beethoven, chez Schubert, chez Bartok. C'est quelque chose de complètement étal, transparent, qu'il faut trouver, mais en gardant aussi, parce qu'ils utilisent les mêmes échelles de nuances que tout le monde, mais à trouver ce son français dont vous parliez, c'est vrai que c'est quelque chose, enfin, quand on a beaucoup joué le quatuor de Ravel dans nos deux premières années, et c'est vrai que c'était des casse-têtes absolus pour nous de trouver justement ce juste milieu entre la transparence et la matière qui est nécessaire pour jouer cette musique. Et voilà, quand on va s'attaquer à Debussy dans 2 ans, je crois, je pense qu'on va retrimer comme il faut pour retrouver cette transparence nécessaire, et qu'on retrouve cette transparence aussi parfois chez des compositeurs allemands comme Schubert, où des fois il y a ce temps suspendu qu'il faut trouver, et d'autres comme Beethoven où non, c'est toujours ici avec le poing sur la table. Enfin, c'est vrai que pour les musiciens et les interprètes, et j'imagine pour les chefs et les chanteurs, c'est très difficile de trouver aussi ce juste milieu entre comment un Français doit interpréter de la musique allemande, de la musique russe, de la musique hongroise et notre propre musique, et vice versa, comment les Allemands voient notre musique française. Je pense qu'il y a vraiment un échange à avoir là-dessus pour non pas, comme vous disiez, ce risque de tout homogénéiser à travers les différents styles, mais de se mettre dans la peau d'un Allemand quand on joue Beethoven, dans la peau d'un Hongrois quand on va jouer Bartok, et dans notre peau de bon Français quand on joue Ravel et Debussy.
Et aussi s'approprier la langue aussi. Exactement. Nous, on parle beaucoup de ça en répétition, justement de comment un Allemand ou un Hongrois parle dans sa langue maternelle, en fait, qui est très différente du français, où on a plus tendance à étirer les phrases et à ajouter des images, etc. Et les Allemands ont des fins de phrases assez construites et structurées. Et tout ça, c'est des choses qu'on apprend, et on découvre aussi du coup des histoires sur le pays, etc. Donc c'est vraiment très très intéressant de travailler une nouvelle pièce. Quand on avait passé le concours Nielsen, on avait joué un quatuor de Nielsen, et on n'est pas souvent amené, je pense, en tant que quatuor à jouer un quatuor de Nielsen. Et pareil, c'était vraiment un travail de découverte de sa musique, mais aussi du pays du coup qu'il y a derrière, parce que c'est essentiel pour s'approprier le langage.
Ça doit vous faire plaisir d'entendre tout ça, Vincent, puisque vous formez des jeunes chanteurs à l'Opéra Studio.
Oui, tout à fait. Justement, arrivé beaucoup, d'ailleurs, c'est un Opéra Studio international, donc beaucoup de chanteurs sont étrangers et viennent la plupart souvent ici pour acquérir un petit peu quelques notions, si j'ose dire, sur la musique française et l'opéra français, la mélodie française. On y travaille beaucoup, on travaille sur la langue, effectivement, les mots, comment les mots, des mots naissent la mélodie et naissent la musique. Et donc pour ça, c'est assez important, oui. D'ailleurs, je pars là dans 15 jours à Cardiff, à l'IV, à l'International Vocal Academy de Denis O'Neill et Kerry Tekanawa, pour faire une masterclass sur la musique française, justement. Après, je vais en Hongrie aussi, justement, au mois d'août pour ça aussi. Et c'est vrai que c'est une spécificité qui est Mais c'est très lié à la langue, effectivement, à la langue, les mots, lié à la facture instrumentale. Je pensais justement aux contrebasses, la façon de tenir l'archet à l'allemande ou à la française aussi fait une différence de production du son assez différente. La facture entre le basson français et le fagot allemand qui va donner une couleur singulièrement différente. Donc tout ça, effectivement, fait des caractéristiques étrangement intéressantes.
Très bien. Bon, on va arriver au terme de cette émission. Vous êtes les uns et les autres pris par des répétitions. Vos prochains concerts jeune Quatuor à Rhodes.
Eh bien, on part juste après le concert d'aujourd'hui pour l'Allemagne, où nous allons à Nuremberg pour un concert demain soir.
Jouez le même programme qu'à Colmar.
Y aura un Mendelssohn en plus. Voilà, donc ce sera Haydn, Mendelssohn et Schubert.
D'accord, et on rappelle que le disque Mendelssohn sortira début octobre
Fin septembre, il me semble, le 29 septembre pour la sortie française. Oui.
Bon, en tout cas, on en parlera sur Accent 4, l'assure. On va se quitter en écoutant un extrait du premier mouvement du Quatuor « La jeune fille et la mort » de Schubert, que vous avez donné il y a deux ans.
Au concours Carl Nielsen, c'était la finale.
Donc ça va être un moment de souvenir pour nous aussi.
Bon, on vous écoute. Un extrait du premier mouvement, le Quatuor, La jeune fille et la mort de Schubert par le Quatuor à Rhodes, qui était donc mon invité aujourd'hui, samedi 8 juillet. Eh bien, l'Opus Festival de Colmar s'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain à 18h en compagnie d'Alain Lanceron, le président directeur général de Warner France et d'Erato. Et merci à François d'avoir réalisé cette émission. Bon festival, à demain.
L'Opus Festival de Colmar, une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival de musique de Colmar
et avec le soutien du CICEST et d'Arpège Armand Meyer.